C'est un privilège d'être orateur dans une semaine de jeûne et prière. C'est vraiment un privilège d'être là, juste au début d'une semaine, un temps d'invitation particulier pour notre Église, un temps de rencontre, un temps de mise à part. C'est pas un temps comme tous les autres. Et j'aimerais vraiment vous placer dans cet aspect-là ce matin. On est là à l'aube, à la veille d'une semaine qui n'est pas une semaine comme toutes les autres. C'est une semaine de jeûne et prière, tous ensemble dans l'Église, et que notre attente, elle grandisse par rapport à ça, que notre attente, elle s'élève. Il y a de grandes choses qui vont être vécues. Et Joël nous a enseigné sur le jeûne la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se pratique? Comment on s'y prépare? Pourquoi? Ce matin, on va parler de la prière d'une manière un petit peu différente peut-être, mais ô combien c'est important de se préparer pour cette semaine et de la vivre ensemble. Ça va être génial. Le thème de cette semaine, c'est « Mieux le connaître ». Et c'est tout à fait ce dont on va parler ce matin. J'avais normalement un PowerPoint qui doit être lancé sur l'ordi là-bas. Quand tu le mettras, j'ai les versets bibliques qui sont là-dessus. Et en bon français, j'aimerais quand même d'abord commencer par râler. J'aimerais râler parce que y a un truc, en fait, c'est un peu un coup de gueule ce matin. Il y a des publicités qui m'énervent parce qu'elles promettent plein de choses et puis en fait, il y a rien qui se passe vraiment. Hein. On vous promet que un hôtel superbe là quand vous réservez avec des chambres magnifiques, une piscine. En fait, vous avez surtout vu les photos du projet. Quand vous arrivez, c'est bien différent de la réalité. Et ces publicités-là, elles m'énervent parce que je suis frustré, j'ai le sentiment de me tromper moi, j'ai le sentiment d'avoir été trompé, et ces publicités m'agacent. Ou de la même chose, il y en a, je crois, qui peuvent le témoigner dans l'Église, les articles qu'on commande à distance et qu'on reçoit et qui sont bien différents de ceux qu'on avait commandés. Hein. J'ai un ami là, qui a commandé un rouleau à pâtisserie la semaine dernière parce qu'il voulait faire des tartes, il en a reçu un qui faisait 15 cm. 15 cm de rouleau à pâtisserie. Vous croyez faire une bonne affaire? Et puis non. Et c'est quoi l'arnaque? C'est quoi l'arnaque? Alors ouais, effectivement, il fallait aller voir dans les petites zones là que c'était un rouleau pour faire des mini tartelettes et pas un rouleau pour faire des grandes tartes. Alors heureusement que c'est quelqu'un qui est célibataire et qui pourra se faire des petites tartelettes pour lui tout seul. Si c'était une mère de famille, ce serait difficile. Mais bon, il y a de l'arnaque dans tout ça quelque part. Il y a de l'arnaque. Et puis, ce matin, c'est un message sur la prière. Et justement, en parlant de prière, il y a quelque chose qui m'agace aussi. Voilà ce que Jésus il nous dit. « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Je le répète, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Elle est où l'arnaque? Elle est où l'arnaque, sincèrement? Elle est où la petite astérisque qui nous dit « Oui, je le ferai si vous demandez en mon nom, dans la mesure où vous avez suffisamment de foi, ou si vous avez suffisamment jeûné, ou si vous avez prié suffisamment longtemps, ou si vous êtes chrétien depuis suffisamment d'années, ou si vous avez suffisamment donné dans la boîte à offrandes le dimanche matin, si vous avez été sympa avec vos enfants, avec votre femme. » Elle est où l'astérisque? C'est où les petites conditions particulières qui me font dire que ça, ce n'est pas une arnaque? Parce que qui d'entre nous un succès systématique quand il prie au nom de Jésus, qu'il lève la main et je me prosternerai. Non, sincèrement, il y a donc deux choses par rapport à ça. Soit Jésus, c'est le plus grand menteur de l'histoire, soit c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit changer dans notre manière d'approcher ce fait de prier en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vous invite ce matin, c'est à regarder ça. Qu'est-ce que ça veut dire de prier au nom de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire de prier en son nom? Et je crois que ce sera une bonne introduction pour passer ensuite une semaine entière de jeûne et de prière pour prier avec efficacité. Alors pour comprendre cette histoire-là, on va revenir en arrière. Et ça va, ce que je vais vous dire au début, ça va peut-être vous paraître déconnecté de la prière, peut-être même pendant un moment, mais vous allez voir que c'est complètement lié. Et c'est complètement explicatif du fait de prier en son nom. On va revenir au plus grand commandement qui nous est donné dans Deutéronome. Et c'est ce commandement aussi qui est placé en tête quand Jésus nous dit « Voici le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quel rapport avec la prière ? C'est la base, c'est vrai, mais quel rapport avec la prière ? Moi, je me souviens qu'il y a un chant qu'on chante. Alors, c'était Pierre ce matin, je me suis dit, c'est possible que ce vieux chant ressorte, on ne sait jamais. Il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas eu celui-là. Il y a un chant, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, ton amour, ta puissance, hein, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on chante ? Et je veux t'adorer de cœur, t'adorer. Eh non, faux, merci. Ouais, voilà, je ne suis pas le seul à me tromper. Je ne suis pas le seul. Pendant longtemps, je me suis planté. Quand j'étais enfant, j'étais en stress quand on arrivait sur ce refrain parce que je ne savais pas si on allait commencer par la force, par l'âme, par le cœur. Je ne me souvenais jamais. J'étais le seul à chanter toute alors que c'était tout mon cœur parce que j'étais prêt à chanter mon âme et non. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que dans ce premier commandement, il y a un principe biblique absolument essentiel sur lequel on va s'arrêter ce matin qui est le fait qu'il y a un ordre. Il y a un ordre. Il est question du cœur, puis il est question de l'âme, puis il est question de la force. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi cet ordre, il est important, et pourquoi, si on ne respecte pas cet ordre-là dans notre façon d'approcher la prière ou dans notre façon d'approcher notre vie en général, on se trompe complètement. Alors, quand il est question de toute notre force, qu'est-ce que c'est qui est derrière ça ? Ben, ce sont nos actions. C'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, toutes nos actions, toute notre manière d'agir. Quand il est question de l'âme, toute notre âme, ce sont toutes nos émotions, je l'ai entendu, ce sont toutes nos pensées, c'est toute notre volonté. Hein, nos pensées, notre volonté, nos émotions, tout ce qui va finalement diriger nos actions. Parce que j'agis pas, ma main, elle agit pas toute seule. Ma main agit parce que je l'ai décidé. Ma main agit parce que je l'ai voulu. Et vous voyez où je veux en venir ? On finit par le cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est la partie de Dieu qui se connecte, la partie de nous, pardon, qui se connecte à Dieu. C'est ça, notre cœur, et on va le montrer ce matin. Le cœur, c'est comme un réservoir de l'Esprit de Dieu. Et si ce réservoir-là, il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, mes pensées, mes émotions, ma volonté n'est pas influencée par l'Esprit de Dieu et mes actions ne le sont pas non plus. Et dans ce que je dis et dans ce que je prie, si je veux être influencé par l'Esprit de Dieu, je dois remplir mon cœur de la présence de Dieu. Donc ô combien c'est génial d'avoir une semaine de jeûne et prière qui s'appelle « Mieux le connaître », mieux passer une semaine dans la présence de Dieu. Notre esprit influence nos pensées et nos pensées influencent nos actions. Donc ça, c'est un principe biblique que vous devez graver dans le marbre de vos cœurs parce que c'est une vérité avec un grand V. Il y en a quelques-unes comme ça dans la Bible. Et on entend souvent, je l'ai encore lu sur Facebook cette semaine, qu'il faut changer de mentalité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En tant que chrétien, on ne doit pas se conformer à la pensée du monde. On doit changer notre mentalité, changer notre manière de réfléchir. Et c'est absolument juste, absolument juste. Et moi, ce que je vous montrais ce matin, c'est que pour changer de mentalité, il faut d'abord changer de cœur. Et que c'est en changeant ce qui est dans mon réservoir que mes pensées vont évoluer et qu'elles vont changer et qu'elles vont se conformer à Dieu. Mais si mon plan d'action, c'est de changer ma mentalité par ma force ou par même la meilleure volonté chrétienne du monde, je n'y arriverai pas. Regardez ce que Jésus dit sur ce sujet dans Luc. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. D'ailleurs, à ce propos, il y a un autre passage où Jésus se présente comme le cep. Hein, il dit que nous, on est greffé en tant que sarment sur ce cep, et quand on est greffé sur ce cep, on porte un fruit qui est abondant. Hein, vous connaissez cette parole de Jésus, hein, qui dit « Mais soyez greffés sur moi, dans ma présence. Nourrissez-vous de ma sève, hein, que votre réservoir de votre cœur soit nourri de ça. Et puis il parle dans la parabole du semeur de cette graine qui tombe dans un cœur qui est rempli de ronces. Qu'est-ce qui se passe? Le fruit est étouffé. Le fruit est étouffé. Donc dans ce passage, c'est ce dont il est question. Parce qu'on poursuit. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça fait bon, 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 ça. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, de son mauvais trésor. Pourquoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus, il évite carrément là la phase intermédiaire de toute mon âme au milieu. Hein. C'est de tout mon cœur, donc de toute ma force. Il fait carrément ce raccourci-là. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la nature de l'homme, elle est définie par le trésor qu'il y a dans son cœur. L'homme bon, il tire de bonnes choses de quoi? Du bon trésor qui est dans son cœur. Et il est défini comme bon à cause du bon trésor de son cœur. L'homme méchant est défini méchant à cause du mauvais trésor de son cœur. Ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il y a une influence directe au niveau de ce qu'il y a dans mon cœur, sur qui je suis, sur ce que je vais penser et sur ce que je vais faire. C'est une histoire de bon ou de mauvais trésor, et une histoire de deux arbres. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit dans la Bible où vous connaissez une histoire avec deux arbres? Hein? On va revenir encore un peu plus en arrière. J'aime revenir en arrière et j'aime revenir aux sources. Adam et Ève. Adam et Ève, ils sont dans le jardin, d'accord? La création est parfaite, ils sont parfaits, ils sont en relation avec Dieu de manière parfaite. Vous imaginez que Dieu vient se promener tous les jours avec eux dans le jardin. Ils peuvent le voir, le toucher, parler avec lui. C'est vraiment un moment de présence plein tel qu'on voudrait en vivre. Voilà. Et tel qu'on en vivra. Amen. Donc cette situation-là, elle perdure pendant quelques années, hein, jusqu'au moment où ils sont tentés par le serpent, Satan, hein, qui prend la forme d'un serpent, et qui vient les tenter devant un arbre bien particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il était défendu qu'ils en mangent. Et puis ils ont goûté à ce fruit. Pourquoi? La tentation était de dire « Mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous aussi, vous serez comme des dieux. Vous ne serez pas juste des créatures de Dieu, vous serez vous aussi comme des dieux. » Et donc Adam et Ève ont mangé de ce fruit qui était défendu. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ils sont chassés du jardin. Ils sont chassés. Pourquoi ils sont chassés? Parce que Dieu leur avait aussi interdit de manger de l'arbre de vie, ce deuxième arbre qui est dans cette histoire-là. Et Adam, dans son état de pécheur, ne pouvait pas manger l'arbre de la communion éternelle avec Christ, de la communion éternelle avec le Père, de la communion éternelle par le Saint-Esprit. Ce n'était pas possible. Donc il a fallu que Dieu sépare et il a fallu que Dieu pourvoie. Et c'est d'ailleurs, on a un signe dans ce passage-là où Dieu a déjà pourvu au premier sacrifice animal pour les vêtir, pour vêtir leur nudité. C'est le premier sacrifice dans toute l'histoire de la création qui est un symbole du sacrifice de Jésus-Christ, mort pour nous, qui est venu couvrir notre nudité, qui est venu couvrir notre honte, qui est venu couvrir notre péché par amour sans qu'on ait fait quoi que ce soit, alors qu'on ne méritait que la mort. Quel amour! Quel amour! Quel désir de Dieu d'être en relation avec nous! Quel désir de Dieu de partager sa présence avec nous! Donc au moment où ils mangent du fruit, Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Leurs yeux s'ouvrent, ça c'est ce qui est écrit. Et leur réflexe, alors que leurs yeux se sont ouverts sur leur nudité, sur le fait qu'ils s'étaient plantés, qu'ils s'étaient donc trompés, qu'ils avaient désobéi, leur réflexe c'est d'aller se cacher parce qu'ils entendent que Dieu est en train d'arriver dans le jardin et qu'il les appelle. Leur réflexe c'est « je vais me cacher et je vais trouver une solution par moi-même. Je vais commencer à fabriquer une petite tunique avec des feuilles de figue que je vais tresser histoire de couvrir ma honte. » Ils avaient entendu que Dieu était là et pourtant ils vont se cacher. Vous avez vu la conséquence du péché? La conséquence de cette nourriture qui venait de consommer, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je fuis Dieu. Je fuis Dieu à cause de ma culpabilité. Et franchement, à ce moment-là, il y a un signe très, très clair qu'il faut noter, c'est que pour eux, il est moins question de Dieu que d'eux-mêmes. Il est moins question de Dieu et de la présence de Dieu que de la honte qu'il y a dans leur cœur. Il est moins question de demander pardon et de venir chercher celui qui a tout créé, celui qui les aime, ils le savaient, que d'aller chercher une solution par eux-mêmes. Et ça nous parle de quoi tout ça ? Ça nous parle du fait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il représente nos tentatives de prendre la place de Dieu dans nos vies. Et c'est une histoire qui a eu il y a longtemps, mais qui est encore tellement vraie aujourd'hui et qui a encore tellement d'impact en nous aujourd'hui. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous influence pour tomber dans des schémas de dépendance à soi plutôt que de dépendance à Dieu. La dépendance à ma force et non pas la dépendance à sa force. Alors je trouve génial le dernier chant qu'on a chanté ce matin. Hein, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Oui, pas par ma puissance, pas par ma force, mais par son Esprit. Donc dans un schéma de dépendance à soi plutôt que dans un schéma de dépendance à Dieu. Ça se manifeste, par exemple, c'est un fruit de loi, d'accord, qui vient mettre une forme de... Il y a une notion de jugement. Je juge les choses, je pèse les choses, et puis aussi je peux me rendre coupable et je peux me condamner moi-même si je réfléchis et que je pense au travers de ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça se manifeste par « je vais prier plus ». Je prends un engagement, je vais prier plus. Je dois prier avec plus de foi. Je dois me saisir de cette autorité au nom de Jésus pour briser la maladie, pour briser la mort, pour briser la condamnation. Je dois, il faut, je vais. C'est un fruit dans notre cœur qui vient pervertir nos pensées. Il vient pervertir nos pensées. Et donc, il vient pervertir notre manière d'agir, mais c'est sournois. On va interpréter des versets comme soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, en disant je dois changer de mentalité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal me fait dire oui. Mes pensées sont perverties, donc je dois changer de mentalité. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si ce fruit il reste dans mon cœur, mes pensées, elles vont rester perverties. Non, on va aller plus vite. La Bible, elle est vraiment claire. C'est hyper documenté sur le fait que je ne peux pas approcher Dieu par ma connaissance. Je ne peux pas connaître Dieu par mon intelligence. Ce n'est pas ça qui m'amène à la connaissance de Dieu et à sa volonté. La Bible dit que c'est une révélation gratuite de l'Esprit. L'Esprit qui est la source de la vie éternelle, cette source jaillissante, cette source qui bouge, ce vent qui se mouvoie, vous avez compris ? Autour de la terre qui était encore informe, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas mettre dans une boîte, c'est tout ça l'Esprit. Salomon nous dit dans toute sa sagesse, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, pas de toute ton âme, de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends et il te conduira sur un chemin qui est droit. Amen. Alors vraiment, ce matin, je ne veux pas faire une opposition entre le cœur et l'intelligence. Ce n'est vraiment pas mon propos parce que les deux sont bons et on est appelé à un renouvellement de notre intelligence. Mais les deux sont bons et ils sont nécessaires quand ils sont dans le bon ordre. C'est juste ça que je veux pointer ce matin. Je ne peux pas changer mes pensées et ma mentalité si je ne change pas d'abord mon cœur. On n'adore pas Dieu de toute notre âme, puis de tout notre cœur, etc. Il y a le cœur qui vient en premier et tout le reste en découle, y compris notre prière et y compris son impact. C'est à ça qu'on viendra tout à l'heure. Parce que si ma prière, elle se nourrit de la présence de Dieu qui remplit mon cœur, c'est une source de vie en moi qui va porter un fruit abondant. Ô combien la Bible et combien Jésus nous a rappelé ce principe-là. Et donc ça m'amène au deuxième arbre, l'arbre de la vie. Parce qu'il n'était pas question que d'un seul arbre dans cette histoire, il en était question de deux. Et le deuxième est plus important, l'arbre de vie. Et celui-là, il représente la vie dans la communion éternelle avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cette raison-là que Adam, en tant que pécheur et un Dieu qui était parfait, ne pouvait pas manger d'un arbre qui allait le mettre pour l'éternité en relation avec un Dieu parfait. C'était la mort. C'était la mort. S'il mangeait ce fruit en tant que pécheur, c'était la mort. C'était l'extinction de l'espèce humaine. C'était la fin de ce pourquoi Dieu avait fait toute sa création. Et ce qu'on voit comme un jugement en Éden de chasser l'homme du jardin, ce mauvais Dieu qui a chassé l'homme du jardin, c'est un acte d'amour. C'est un acte de protection. C'est un acte dans lequel il dit non, non, je vais pourvoir. Je vais pourvoir. Et il a pourvu. Il a pourvu Jésus-Christ. Il l'a pourvu. Celui qui a été péché à ma place. Celui qui est mort, qui a accompli toute la loi de Dieu. Celui qui a accompli toute chose. Qui était parfait. Qui a été mis sur une croix. Humilié, rejeté, mis dans le tombeau. Mort. Pendant 3 jours, mais par la puissance de l'Esprit qui s'est relevé d'entre les morts, qui est ressuscité, qui s'est assis à la droite de son Père aujourd'hui et qui brise cette malédiction pour nous de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour nous donner les bénéfices de l'arbre de vie. Voilà ce qui se passe en Jésus. Voilà ce qui se passe en Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal peut ne plus influencer ou remplir mon cœur, parce que aujourd'hui, je peux me nourrir du fruit de l'arbre de vie. Salomon, toujours, nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Il n'est pas question de « agir avec droiture », plus que toute autre chose. Il n'est pas question de ton intelligence doit être renouvelée et ta mentalité conforme à moi, plus que toute autre chose. Il est question de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi ? Car de lui viennent les sources de la vie. Salomon, dans cette sagesse révélée de Dieu, avait déjà compris que notre cœur était le réservoir du fruit de l'arbre de vie. Pour que nous portions une vie abondante, une vie de fruits abondante, et que nous soyons, comme on le disait sur la lumière tout à l'heure, effectivement, oui, ces lumières, ces flambeaux qui brillent dans le monde, que nous donnions ce sel, que nous soyons ce sel qui donne cette saveur sur la terre, parce que dans notre cœur, nous avons le goût de Christ, le goût du Père, le goût de la puissance de cet esprit qui est une vie en nous. Et donc le fruit de l'arbre de vie, quand on le mange, il nous influence pour vivre non plus dans une dépendance à moi, mais dans une dépendance continue à la présence de Dieu, de sorte que le réservoir de mon cœur déborde. Paul, il nous le dit dans Éphésiens, il nous dit quelque chose de tout simple. Soyez remplis de l'Esprit. Et ça paraît tout simple. Mais j'ai entendu un enseignement un jour là-dessus, c'est pas de moi, je connais pas moi tout ce qui est le grec, etc. Mais il y a quelqu'un qui avait fait un très bon enseignement sur ce passage-là notamment, et les temps qui sont utilisés dans ce passage, si on voulait le traduire dans un français qui n'est pas très français, vous savez ce que ça voudrait dire ? Soyez continuellement, à nouveau, remplis par l'Esprit. Ce qui n'aurait pas forcément de sens, effectivement, dans ce passage. Mais quand Paul nous dit soyez remplis par l'Esprit, ce qu'il est en train de nous dire, c'est soyez dépendants à la présence de Dieu. Soyez continuellement, ça veut dire tout le temps, à nouveau, ça veut dire encore, remplis par l'Esprit. Ça veut dire que Paul est en train de nous exhorter à ne pas marcher sans être renouvelé par le Saint-Esprit, à ne pas marcher sans être en communion avec l'Esprit. Il nous encourage tout simplement à ce que notre cœur déborde du fruit de l'arbre de la vie. Et ce fruit, quand il est dans mon cœur, il se manifeste par, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, là, il se manifeste par des « j'ai envie de prier ». J'ai besoin de prier. Je connais mon Dieu et c'est lui qui nourrit ma foi. La vie dans l'esprit, elle ressemble à ça. Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Voilà cette marche à laquelle Paul nous appelle, plein du fruit de l'arbre de vie, renouvelé. Bon, ok, jusque-là, vous êtes vachement sympa parce que vous ne réagissez pas. Mais au fond de vous, vous devez être en train de vous dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça change. Parce que dans les deux cas, je prie. Finalement, au fond, dans les deux cas, je prie. Dans le premier, je vais prier, je dois prier. Puis dans le deuxième cas, j'ai envie, mais dans tous les cas, je prie. Est-ce que ce n'est pas ça l'important ? Alors, je vais vous expliquer une petite différence subtile. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'ouvre les yeux sur mon péché et sur ce que je dois faire pour m'en détacher. Il est donc question de moi. Il m'ouvre les yeux sur moi. Voilà ce qu'il fait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il m'ouvre les yeux sur moi et ce que je dois faire pour me détacher de mon péché. Je dois, par exemple, s'il est question de prière, je dois planifier des temps réguliers avec Dieu. Et puis, au fond, c'est moi qui vais tenir le gouvernail. Hein. C'est moi qui vais vers Dieu. Il y a vraiment cette notion. C'est moi qui fixe le temps, c'est moi qui fixe le timing, c'est moi qui vais, qui m'élève vers Dieu. Alors vraiment, dans sa grâce, Dieu, il honore aussi ça. Dieu fait grâce. Et quelles que soient nos motivations, si on vient rencontrer Dieu, Dieu nous rencontre. Même si c'est moi qui m'élève vers Dieu, Dieu viendra me rencontrer. Et Dieu viendra me bénir. Et Dieu viendra m'aimer. Et Dieu va venir m'utiliser. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ô combien il y a une vie plus abondante à vivre derrière ça. Personnellement, toutes les fois moi, où j'ai pris la décision de prendre ce genre de temps régulier en disant tous les jeudis soirs, tous les matins, tous les X temps, je vais passer du temps avec Dieu, je vais prier, etc. de manière une bonne discipline chrétienne, eh bien, je dois faire le constat que je me suis laissé finalement grignoter assez vite, je ne sais pas pour vous, et puis j'ai fini par m'essouffler, souvent. J'ai fini par abandonner, parfois. Et dans tous les cas, je me suis senti coupable de ne pas y arriver. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Mais voilà ce qui se passe quand on marche dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal et quand moi, je vais vers Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire pour y aller ? Et attention, parce que je ne dis pas que la discipline est mauvaise. Au contraire, la discipline, elle est bonne. Hein ? Ne me méprenez pas dans ce que je suis en train de dire. La discipline est excellente, mais la discipline est bonne quand elle est la conséquence d'une communion avec Dieu et pas quand elle est là pour créer cette communion. Et encore une fois, il n'est pas question de quelque chose de bon ou de quelque chose de mauvais, il est juste question de l'ordre dans lequel je mets les choses. Est-ce que le cœur est d'abord ? Est-ce que l'âme est d'abord ? Et de quoi mon cœur est rempli ? Si mon cœur est rempli de l'arbre de vie, la conséquence, ce sera l'envie d'une discipline pour planifier des temps avec Dieu, le fait de se réjouir en lui. L'arbre de vie, enfin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je disais, nous ouvre les yeux sur nous, sur soi, hein, et sur notre état de pécheur, ce qu'on doit faire, etc. À l'inverse, le fruit de l'arbre de vie, il m'ouvre les yeux sur Dieu qui est présent à mes côtés à chaque instant. Voilà ce qu'il fait, l'arbre de vie. Il éveille mon esprit à l'esprit de Dieu en moi. Parce que c'est ce que Jésus il nous dit, hein. Je suis avec vous tous les jours. Et là aussi, il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas d'arnaque non plus. Hein. Je suis avec vous tous les jours, il n'y a pas un seul instant, et on l'a, il y a des paroles qui nous l'ont dit ce matin, on l'a chanté, c'était puissant ce message de Dieu qui disait, je suis là, présent, à chaque instant. Et donc, plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus j'ai envie d'en passer encore plus. Et plus je suis exhorté par l'Esprit à planifier des temps réguliers parce que j'ai besoin de ça, parce que j'aime ça, et non pas parce qu'il le faut. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont déjà lu Narnia ou qui ont vu le film qui a été fait là-dessus. Il y a Edmund, un des garçons, à un moment donné, il goûte des loukoums. On lui offre une boîte avec quelques loukoums dedans, et puis il goûte le premier, il goûte le deuxième, puis le troisième, et puis il ne veut plus s'arrêter de manger ses loukoums jusqu'à en avoir mal au ventre, mais il finit la boîte, et une fois qu'il a fini la boîte, il en demande encore tellement il en veut. Il y a une dépendance à ses loukoums et au fait d'avoir des loukoums, et on lui promet que s'il fait ceci et qu'il fait cela, il va encore en avoir d'autres, et donc tout le reste de l'histoire, toutes ses actions, tout ce qu'il réfléchit dans ce livre, et tout ce qu'il fait sont conditionnés par le fait qu'il veut encore avoir ces loukoums-là. Eh bien, ayons des loukoums dans notre cœur, mais des bons loukoums, parce que dans cette histoire, c'est une sorcière et qu'il l'a trompée. Il y avait effectivement une arnaque dans l'histoire, et il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il n'a pas obtenu ses autres loukoums. Mais Dieu nous dit que si la présence de Dieu en nous, si ce fruit qu'on mange de l'arbre de vie est comme ce loukoum, on en aura encore. On pourra finir toutes les boîtes qu'on veut, il y en aura des montagnes. Amen. S'il n'y a pas de loukoum au ciel, vous en souviendrez. Alors, il était question d'Adam et Ève, hein, sur cette histoire de ces deux arbres. Mais juste pour vous montrer, dans la suite de l'histoire, ça a continué. On a encore la dualité entre ces deux fruits, ben, dans l'histoire de Caïn et Abel. Donc ça nous montre bien que c'est quelque chose qui n'a pas été que pour Adam et Ève, mais qui est réellement rentré dans l'histoire de l'humanité et dans la malédiction dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Dans l'histoire de Caïn et Abel, vous avez Caïn et Abel qui tous les deux offrent un sacrifice à Dieu. Waouh ! Génial ! Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Et quel est le problème dans cette histoire-là ? Ben, le problème, c'est qu'il y en a un des deux, Caïn, qui a apporté un sacrifice en connaissant mal son Dieu. Et il a apporté le fruit de son travail, le fruit de ce que lui avait fait. Et quelque part, c'est lui qui a fait le chemin jusqu'à Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Abel, qu'est-ce qu'il a fait ? Son sacrifice a été agréé par Dieu. Abel, il a juste sacrifié un agneau. Il n'a pas sacrifié le fruit de son travail. Finalement, il était pépère, tranquille. Mais ça montrait quoi ? Il connaissait son Dieu. Et il savait que le sacrifice que Dieu agréait, c'était celui pour lequel Dieu pourvoyait. Parce que Dieu pourvoit lui-même au sacrifice. Il ne nous demande pas de nous couper en deux. Il ne nous demande pas d'amener ce qu'on a été capable de faire. Ce qu'on est capable de faire est la conséquence du fait qu'on sait que Dieu pourvoit pour ces choses-là. Et donc, cette dualité entre ces deux fruits reste dans toute la suite de l'histoire biblique. Tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui. De manière sournoise. Alors qu'on est dans une église qui proclame la grâce de Dieu, alors qu'on est dans une église qui prêche la grâce de Dieu, alors qu'on est dans une église qui vit sincèrement la grâce de Dieu, je me rends compte à quel point, de manière sournoise, on est influencé dans nos mentalités par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vraiment, je ne veux pas nous accabler ce matin, je veux nous encourager. Nous encourager non pas à changer de mentalité, mais à changer de cœur. Cette semaine de jeûne et prière, passer une semaine dédiée à « Seigneur, je recherche ta présence, je veux mieux te connaître. » Génial, génial. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a libérés de cette malédiction pour nous donner les bénéfices de l'arbre de vie. Alors si vous voulez le bien, on va quand même revenir à notre arnaque de départ. Parce que finalement, on n'a pas résolu. Quand Jésus nous dit « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que par rapport au départ, quand je vous ai projeté ce verset, on commence à discerner que « en mon nom », ça veut dire quelque chose d'un peu particulier. On commence à discerner que « en mon nom » fait écho à ce fruit de l'arbre de vie en moi, à la communion avec Dieu. Et ce que je vous propose, c'est de lire ce que Jésus dit un tout petit peu plus tard. Il précise certaines choses, et c'est par là en plus que Thomas a commencé son culte, donc c'est génial. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Là, il n'est pas question du « en mon nom », mais c'est exactement la même dynamique. C'est demander et vous recevrez. Mais c'est dans quel contexte ? Dans un contexte où vous demeurez en moi et moi, je demeure en vous. La parole de Dieu qui demeure en nous, c'est Jésus-Christ qui demeure en nous. C'est lui la parole qui a été faite chair et qui envoie son esprit sur nous en disant « je serai avec vous tous les jours ». Dans ce passage, il est question de la présence de Jésus, il est question de l'esprit dans notre cœur. Et si je demeure en Christ, rempli par son esprit, parce que c'est ce qui se passe, alors tout ce que je demande, je l'obtiens. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que je vais demander va être modelé par cette plénitude de Dieu dans mon cœur. Et je ne vais peut-être pas demander les mêmes choses. Je ne vais peut-être pas demander de la même manière. Jésus, il est en train de nous dire que de prier en son nom, au nom de Jésus, ça veut tout simplement dire de le connaître. Enfin, tout simplement. C'est un vaste programme. Ça veut dire de le connaître. Ça veut dire de cultiver une intimité toujours plus grande avec lui par son esprit en nous. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est quelque chose qui se cultive. De la même manière qu'un arbre, on plante une graine et on fait croître, on fait grandir, on fait pousser, on arrose, on en prend soin, on lui donne toute l'attention dont il a besoin pour grandir et pour qu'on puisse profiter, se mettre à son ombrage, accrocher une balançoire, manger dessous, en cueillir les fruits. Donc Jésus nous dit ça, cultiver une intimité toujours plus grande avec moi. Pourquoi ? Si on revient à se prier en son nom, ça vous fait, moi ça me fait écho à la notion d'ambassadeur. Typiquement, l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui va aller au nom d'eux. C'est quelqu'un qui, dans un autre pays, va pouvoir parler au nom du président de la République française, même si nous ne sommes pas en France. Et si l'ambassadeur, il n'est pas en relation étroite avec celui qu'il représente, est-ce qu'il peut parler en son nom ? Imaginez l'ambassadeur français au Togo. S'il n'a jamais entendu parler d'Emmanuel Macron, s'il ne sait pas du tout quelle est la politique extérieure d'Emmanuel Macron vis-à-vis du Togo, comment vous voulez que ce gars-là il parle au nom d'Emmanuel Macron, au nom de celui qui lui a confié une autorité dans ce pays-là ? C'est juste impossible. Et on le conçoit d'une manière humaine, et c'est une logique spirituelle qui est identique. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que l'ambassadeur, il ne porte pas sa parole, il porte la parole de celui qui l'envoie. Et c'est la même chose avec nous. L'autorité qui nous est confiée dans nos vies de la part de Jésus pour prier en son nom, elle est directement liée à notre intimité avec lui. Elle est directement liée au fait que je connaisse qui est Jésus, que je sache qu'est-ce qu'il veut, que je sache où il va, que je vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est directement lié à ça. Ce verset qui dit hein, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et ça a beaucoup de puissance si on le conçoit dans cette logique-là, dans cette logique que oui, Christ habite en moi et c'est lui qui conduit mes pas, c'est lui qui m'invite à prier. Et donc lorsque je prie au nom de Jésus, plein de sa présence, je prie en accord avec sa volonté. Voilà la clé. C'est que plus je me nourris de la connaissance du cœur de mon Père, plus je me nourris de la connaissance du Fils qui le révèle, plus je suis bougé par le Saint-Esprit et sa puissance, plus je prie en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, j'obtiens ce qu'il demande. Pourquoi ? Mais parce que lui, c'est ce qu'il voulait aussi. Donc, prier en mon nom, c'est prier ce que Dieu voulait de toute façon nous donner. Et il y a besoin qu'on ouvre nos bouches. Pour voir plus de fruits dans nos prières, et c'est ce à quoi je nous encourage pour cette semaine qui est devant nous, et puis j'arrive au bout de mon message. Pour voir plus de fruits dans nos prières, on n'a pas besoin de plus de foi, mais on a besoin de plus de Dieu en nous. Et quand on aura plus de Dieu en nous, quand on connaîtra plus Dieu, notre foi va grandir. Et elle va être nourrie de lui, elle va être nourrie de ce qu'il est, elle va être nourrie de la manière dont l'Esprit nous conduit, et pas la manière dont nous conduisons l'esprit. Donc finalement, ce matin, j'ai passé peu de temps à enseigner directement sur la prière, vous l'avez remarqué. Mais je trouvais que c'était important qu'on fasse ce détour pour pas parler de l'action, mais pour parler de ce qui produit l'action et de ce qui nourrit l'action. Et je crois vraiment que c'est un temps particulier pour notre Église que cette semaine de jeûne et prière soit là devant nous. Je crois sincèrement que c'est une opportunité, non pas de nous intéresser à la prière, non pas de nous intéresser au jeûne, non pas de nous intéresser aux efforts qu'on va pouvoir faire pour faire plaisir à Dieu ou pour créer un temps particulier, mais que c'est une opportunité incroyable de juste mieux connaître notre Dieu. Juste mieux connaître notre Dieu. Juste lui dire, plus de place, Seigneur, encore. Prends plus de place. J'ai besoin que tu grandisses encore en moi. C'est vraiment en cultivant cette intimité profonde avec notre Créateur qu'on va voir des réalités, devenir réalité des affirmations qui sont dans la Bible. On peut lire, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Là aussi, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'astérisque. La seule condition, c'est connais Dieu, connais-moi, cultive une relation avec moi. Et ensuite, on doit ouvrir notre bouche. Je finis avec ça. Paul, il nous exhorte à prier sans cesse. Là aussi, c'est du superlatif. Il n'y a pas d'arnaque non plus. Il ne nous dit pas prier le matin, ou prier un petit peu dans la semaine, ou prier de temps en temps. Il nous dit prier sans cesse. Alors si je le regarde avec l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal dans mon cœur, je vais me dire, ouh là là, que ça va être difficile. Ouh, que ça va être dur. Ouh, que ça va être dur de penser à prier toute la journée. Comment je peux faire ça? Ou que ça va être dur de planifier, de passer du temps avec Dieu de manière aussi régulière que sans cesse. Je veux dire, il est clair, hein, on ne doit pas s'arrêter, même quand on travaille, même quand on dort. Mais non, c'est l'esprit qui me pousse à ça. Et c'est l'esprit qui exprime des soupirs inexprimables dans mon cœur et qui me connecte à Dieu en permanence. Mais vraiment, je veux nous encourager aussi au fait que la Bible, elle nous invite à demander, elle nous invite à verbaliser à haute voix ce que nous voulons. Elle nous invite à ce que j'ai prêché ce matin ne reste pas juste dans notre cœur, ne change pas juste éventuellement nos mentalités, mais que ça change aussi nos actions. Que ça me pousse à prier davantage, que ça me pousse à prier avec plus d'autorité, que ça me pousse à jeûner encore plus régulièrement, que ça me pousse à le rechercher avec un désir renouvelé. Ardent, que ça me pousse à plus d'action. Et combien de fois dans la Bible Dieu ou Jésus a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Dis-moi et je le fais. Devant Bartimée, le gars il était aveugle, Jésus il le voyait très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je vais être guéri. Non, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Va, tu es guéri. Amen. Salomon. Demande ce que tu veux que je te donne et je te l'accorderai. Oh, Seigneur, je veux la sagesse. Dites-moi que Dieu, il n'était pas capable de lire dans le cœur de Salomon, il pouvait très bien lui donner. Non, demande ce que tu veux et je te l'accorderai. Donc, ô combien c'est important dans cette mise en pratique et dans cette semaine que nous avons et puis dans le reste de nos vies d'ouvrir nos bouches. C'est ce que j'explique à mes enfants en permanence qui me disent, ils me disent, mais si j'ai prié, j'ai dit non. Tu n'as pas prié à haute voix. Tu n'as pas proclamé pour déverrouiller des réalités. Tu n'as pas proclamé à haute voix ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Donc dis-le à haute voix. Ouvre ta bouche. C'est important, important d'ouvrir notre bouche pour qu'on voie des fruits incroyables pour sa gloire. Et j'aimerais juste terminer en vous laissant ce verset. Comme un encouragement. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Unis à moi, nourris par mon esprit. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. J'en ai terminé. Je vous propose juste peut-être qu'on se lève et puis, ou ceux qui sont d'accord, ceux qui sont interpellés par tout ce qui vient d'être partagé, je vous avoue que moi, ça m'a beaucoup chamboulé aussi cette semaine de travailler sur tout ça. Je me suis pas mal remis en question. Mais ô combien la grâce de Dieu est grande pour nous. Il n'y a pas de condamnation dans ce verset, il y a une invitation. Il n'y a pas de condamnation, il y a une invitation. Et moi, je crois que dans cette semaine de jeûne et prière devant nous, il y a une invitation. Il y a une invitation à demander au nom de Jésus, une invitation à demander en son nom. Et ce que je vous propose, c'est juste en signe que nous ouvrons nos cœurs et que nous demandons au Saint-Esprit de venir renouveler sa présence en nous, on puisse juste ouvrir nos mains et dire « Seigneur, viens, viens Seigneur ». Et puis je vais prier. Oh Seigneur. Pardon Seigneur, pardon pour cet arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon pour la façon dont notre cœur est souvent rempli de ce fruit-là Seigneur, merci parce que toi tu as pourvu Seigneur, tu as pourvu à l'agneau parfait, sans tache, tu as pourvu Seigneur pour que cette malédiction-là elle soit éloignée de nous et que l'arbre de la vie y porte du fruit en nous Seigneur. Et de la même manière que nos mains sont ouvertes Seigneur, nous voulons dire que nos cœurs sont ouverts pour recevoir ton fruit Seigneur. Nous voulons que ce soit le réservoir de la source de vie en nous, nous voulons que ce soit un réservoir d'une vie abondante, d'un fruit abondant Seigneur, pour que tout ce que nous demandions en ton nom Seigneur nous soit accordé et que notre joie soit parfaite. Amen.